Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Guy Poblom qui poursuit donc notre thématique de comment se forment les psychanalystes. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Guy Poblom, il est psychanalyste. Il travaille au Courtil dans l'implantation de l'ERSNOR, donc à la frontière franco-belge, comme directeur thérapeutique. Il est également enseignant à la section clinique de Lille et il est également président de l'association de la cause freudienne. Et il enchaîne sur les propos de Philippe Lebois que nous avons entendu il y a un mois. Je te cède la parole.
Tu fais pas un petit, une petite reprise?
Je te donne directement la parole.
Okay.
On rentre dans le vif du sujet.
Bon. Voilà. Bon, eh bien, juste avant d'entrer dans le vif du sujet qui va nous occuper ce soir, je voudrais donc présenter le paradoxe que j'ai rencontré dans mes lectures et qui m'a mis au travail pour ce soir. Il n'est pas sans lien, bien sûr, avec ce que Philippe Lebois a présenté la dernière fois. Et je vais essayer, en espérant ne pas trop le répéter, de prolonger sa réflexion. Je suis parti de ce paradoxe relevé par Jacques-Alain Miller chez Lacan entre deux positions que j'ai écrites ici derrière moi au tableau. L'une qui tient à la passion de l'ignorance et l'autre relevant d'une exigence de savoir. La première proposition se trouve textuellement chez Lacan, dans les écrits, dans son texte intitulé « Variante de la cure type », où il écrit que la passion de l'ignorance donne son sens à toute la formation analytique, ce qui est quand même surprenant comme proposition. Il s'appuie, pour avancer cette idée, sur la recommandation de Freud, qui conseille de remettre en question la théorie analytique devant l'analyse de chaque cas, d'oublier tout ce qu'on sait pour laisser la place au plus particulier du sujet, comme s'il fallait réinventer la psychanalyse à chaque fois. La seconde proposition vient du fait que Lacan, et Freud pas moins que lui, tout au long de son enseignement, a maintenu des exigences de savoir très élevées pour les analystes. Depuis déjà la fin des années 40, il propose un programme de formation très exigeant qui concerne la littérature, la philosophie, l'histoire des sciences, la linguistique, l'anthropologie, les mathématiques et j'en passe. Comme s'il s'agissait de tout savoir, d'être à la pointe de l'actualité des savoirs qui sont extérieurs à la psychanalyse elle-même. C'est ce paradoxe-là, passion de l'ignorance, exigence de savoir, que j'ai mis au travail pour m'orienter dans ma lecture et vous en transmettre ce que j'ai pu en saisir. En effet, pour préparer mon intervention d'aujourd'hui, j'ai fait quelques lectures. Mais il faut bien le dire, les textes dans le champ freudien à propos de la question de la formation du psychanalyste ne sont pas prolixes. Il y a, il est vrai, une espèce de réserve par rapport à cette question de la formation, un certain malaise. Alors même que la question de la formation de l'analyste est du ressort des écoles de l'Association mondiale de psychanalyse, on a attendu longtemps avant de mettre cette question au travail. Alors, ça a été le cas au début des années 2000, exactement en juillet 2002. Il faut quand même noter que juillet 2002, c'est 20 ans, plus de 20 ans après la fondation par Lacan de l'école de la cause freudienne. Donc en juillet 2002, quand l'AMP, donc l'Association mondiale de psychanalyse, a tenu son congrès sur la question de la formation. certains des travaux de ce congrès, ainsi qu'un texte d'orientation de Jacques-Alain Miller tiré de son cours. Donc ce sont les leçons, pour ceux qui voudraient s'y reporter, les leçons des 14, 21 et 28 novembre 2001. Donc, certains de ces textes du congrès et ce texte d'orientation de Miller ont été repris dans le numéro 52 de la revue de la cause freudienne, qui est une revue de psychanalyse publiée par l'école de la cause freudienne en novembre 2002, et dont le titre est « L'information, entre guillemets, des psychanalystes ». À noter que donc le « entre guillemets » est écrit en toutes lettres. Vous voyez donc comment cette question de la formation est prise avec des pincettes. Et il y a bien sûr des raisons à cela. C'est d'ailleurs le premier point qui est souligné. Les accointances, donc ce qui est souligné en premier lieu, ce sont les accointances de la formation avec l'imaginaire. En effet, formation sous-entend le donner une forme à une matière, faire rentrer une matière informe dans un format. Évidemment, tout de suite, on entend le formatage qui accompagne cette action de formation. On entend tous pareil. Il y a un modèle, un standard, et il faut le rejoindre, il faut rentrer dans le standard. Ce que sous-tend donc la formation est une identification. Lacan ne disait rien d'autre dans son stade du miroir quand il disait qu'il était au principe, donc ce stade du miroir, de la formation du moi. Le terme est d'ailleurs présent dans le titre de son texte sur le stade du miroir dans les écrits. Donc c'est le stade du miroir comme formateur de la fonction du jeu. Et si le mouvement psychanalytique, dans son ensemble, soutient qu'il faut en passer par l'expérience, donc l'expérience de la cure, pour devenir analyste, on sait que Lacan a fortement critiqué, notamment le courant de l'égopsychologie, qui dominait après-guerre, et Lacan considérait que la fin de l'analyse, et ce courant de l'égopsychologie considérait que la fin de l'analyse était articulée à l'identification à l'analyste. Lacan déploie cela dans son texte des écrits, La direction de la cure. Je vous donne un aperçu de comment il reprend cela dans son texte, donc La direction de la cure. La conception du transfert dans la cure analytique à l'époque de l'égopsychologie implique que la personne de l'analyste est dédoublée, c'est-à-dire que le patient prend l'analyste pour un autre, pure répétition du passé, c'est comme mon père, comme ma mère, etc. Ce qui est considéré par les analystes de l'égopsychologie comme un trouble du rapport à la réalité. Le transfert est donc une espèce de mesure du rapport du sujet à la réalité en tant qu'il est une erreur faite sur la personne. L'agent de cette erreur est le moi du patient qui résiste à la relation appropriée à l'autre. Il s'agit donc d'un moi immature, d'un moi aliéné, d'un moi faible, et tout le travail de la cure consiste à réduire cet écart entre cette immaturité du moi et la réalité, à conduire, à diriger le sujet sur la voie du moi autonome. Ce moi autonome, c'est le moi qui aurait un rapport correct à la réalité, à l'abri des conflits psychiques. Et pour ce faire, l'analyste compte sur la partie saine du moi du patient. Et précise Lacan, celle qui pense comme nous. Cela implique donc le moi de l'analyste, supposé fort, puisque lui, il est passé par l'expérience et pour qui, à tout le moins, l'analyse didactique garantit le maintien du rapport normalisé à la réalité. L'analyse didactique, c'est en somme, dans le courant égo-psychologique, l'analyse de l'apprenti psychanalyste. ce moi fort de l'analyste devient la norme de référence, ses sentiments deviennent le guide de son action pour rééquilibrer le moi faible du patient. C'est là d'ailleurs que s'ouvre toute la question du contre-transfert. L'effet de cette conception est que l'analyste et l'analysé se trouvent dans une relation duelle, où deux moi se rencontrent, régis par l'imaginaire, dont on ne sait pas qui est à la manœuvre. Et si l'expérience produit un psychanalyste, c'est par identification. Dans ce cas, l'analyste est produit par l'analyste. Dans l'égopsychologie, le but de la cure est de produire un moi autonome, un moi qui est à l'abri des conflits psychiques. On voit bien que c'est un idéal. Le sujet peut enfin vivre en harmonie avec la plénitude de son être. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus que des solutions. On est zen. Pourquoi alors s'emmerder à se mettre au service d'un autre, sinon pour se proposer à son tour comme modèle? Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on repère une filiation des analystes entre eux. Ça existe même dans notre champ. Il y a des commentaires du style « Ah, lui, ça se voit qu'il est en analyse chez Miller » ou « l'autre chez Laurent ». Ça, c'est imaginaire. Et ça tourne court. Pourquoi ? Parce que l'imaginaire, c'est le ressort même de la méconnaissance, dit Lacan. Qu'est-ce que l'opération du stade du miroir ? Eh bien, c'est un leurre. L'enfant qui ne peut pas encore se tenir debout, qui se vit morcelé du fait de l'immaturation de son système nerveux et pas de son moi, se voit dans le miroir sous une forme constituée. Cette forme idéalisée est une suppléance qui voile le réel du morcellement, le réel du morcellement du vécu corporel. On sait d'ailleurs, vous savez, le rapport passionné que l'être humain tient avec son image. Cette méconnaissance est une modalité de la passion de l'ignorance, celle de ne rien vouloir savoir de ce qu'il y a au-delà de l'image. Dans les années 50, Lacan critique vertement cette formation-là, en vogue dans l'égopsychologie, qui est un des courants de l'IPA, donc de l'Institution psychanalytique internationale. Vous le savez, Lacan s'est fait virer de l'Association psychanalytique internationale en 1964. Il a été excommunié, comme il le dit. Mais il y a déjà eu une scission en 1953, 11 ans auparavant. En effet, à cette époque, Lacan a quitté la Société psychanalytique de Paris avec quelques compagnons pour créer la Société française de psychanalyse suite à des conflits concernant justement des questions de formation. Il est clair que Lacan s'est opposé à l'IPA parce que pour lui, il y avait quelque chose à l'IPA qui n'allait pas du tout et qui tenait à son orthodoxie, ou plutôt à sa dite orthodoxie. Qu'est-ce que, en somme, l'IPA ? Freud a créé l'Institut psychanalytique international en 1914 pour dire ce qu'est la psychanalyse, pour dire ce qui est psychanalyse et ce qui ne l'est pas. Et pourquoi a-t-il été amené à créer cette institution ? Eh bien, parce qu'il commençait à y avoir des déviances, des hérésies par rapport à sa théorie, notamment, par exemple, Adler et Jung. Freud s'est rendu compte qu'on pouvait s'emparer de la méthode psychanalytique, de son dispositif, mais en tirer des conclusions théoriques tout à fait différentes des siennes et construire un savoir distinct. Il y avait donc du danger pour la psychanalyse et il a fallu instituer, fixer et collectiviser la définition de ce qu'est la psychanalyse. Ce qui est promu dès lors, inévitablement, c'est la continuité d'un conformisme, la tradition et son extension au plus grand nombre. En effet, donc, le caractère international de l'IPA est essentiel car cela la rend universelle, totalisante. Ça, c'est la définition de l'orthodoxie. Ce qui n'est pas conforme à la norme est considéré comme non psychanalytique. La nouveauté est condamnée, l'innovation est hérésie. En fait, on met là en place un savoir constitué, normé, plutôt figé, dogmatique, immuable. Tout ça n'est pas sans lien avec la religion, bien sûr. Et c'est pourquoi Freud a ainsi, pour sauver la psychanalyse, mis sur pied une église. En fait, c'est un savoir aveugle, clos sur lui-même, qui est vraiment extraterritorial, c'est-à-dire qui est déconnecté du monde qui bouge autour de lui. C'est également une passion de l'ignorance, du côté de ne rien vouloir savoir, caché derrière un savoir en quelque sorte autistique. Alors, dans son texte, Jacques-Alain Miller... Donc, pourquoi je parle de tout ça? Parce que les conflits dans le mouvement psychanalytique, qui ont amené Lacan à se détacher de l'IPA, et à en être exclu aussi, concernent les questions de formation. Hein. Ce n'est pas pour le plaisir de... Jacques-Alain Miller établit une intéressante lecture du mouvement de l'IPA dans son cours pour expliquer comment les choses se sont retournées au sein même de l'IPA de façon à ce qu'elle perde son orthodoxie à l'heure actuelle. D'abord, il note que Freud lui-même a modifié sa théorie pour rendre compte de l'expérience. En effet, il est passé, comme on le sait, de la première topique à la seconde topique. Donc la première topique, c'était donc inconscient, préconscient, conscient, et la seconde, c'est le moi, ça sur moi. Vous connaissez ça sans doute, au moins vous en avez peut-être déjà entendu parler. Bon, déjà, ça a été un choc pour beaucoup de ses élèves à Freud lui-même. Anna Freud, sa fille, et les égopsychologistes ont dès lors fixé cette doctrine, celle de la seconde topique, comme étant celle de la psychanalyse. C'était la branche dure de l'orthodoxie freudienne. Mais, au moment où l'hérésie, entre guillemets, kleinienne est montée en puissance, c'est plutôt là qu'un compromis s'est installé. L'IPA, en effet, a inclus dans son champ le kleinisme, et c'est dès ce moment que l'orthodoxie psychanalytique s'est effondrée et qu'a commencé une fragmentation du savoir et des théories dans l'IPA. Il n'y avait donc plus une théorie de la psychanalyse, un savoir qui dit ce qu'est la psychanalyse, mais des théories, des savoirs. Et donc, en somme, la norme de l'orthodoxie de l'IPA s'est déplacée de la théorie, du savoir qui n'était plus unifié mais fragmenté, du savoir vers la pratique, vers ce que Miller appelle l'orthopraxie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'IPA a suivi la voie de la standardisation quantitative, qui concerne non plus la théorie, mais plutôt la durée des séances, 45 minutes, ou le nombre de séances par semaine, etc. Et si Lacan a été exclu, il faut bien le noter, ce n'est pas tellement à cause de sa théorie, mais plutôt à cause de sa pratique, les fameuses séances courtes. Du côté de la théorie, ce qui se passe actuellement donc dans l'IPA, c'est l'effondrement de la doctrine. Comme le dit Miller, le mouvement IPAiste a commencé par l'investiture de Freud comme une orthodoxie féroce, et elle s'est transformée en orthodoxie buvard, attrape-tout. Et d'ailleurs, depuis que Lacan est mort, bien sûr, on lit Lacan à l'IPA. Tout est bon, en fait. On est passé de l'orthodoxie à l'éclectisme. Il est un président, parce que bon, Miller, il raconte tout ça en même temps, c'est une époque où il lisait pas mal de choses dans le champ de l'IPA. C'est d'ailleurs un moment où il a lui-même rencontré, eu des contacts avec les gens de l'IPA. Il a d'ailleurs... ça a été publié, eu un entretien public avec Etchegoyen, je pense, qui était un moment donc président de l'IPA et qui était clénien. Il est un président de l'IPA. Pourquoi Miller s'est approché de l'IPA? Parce qu'effectivement, il s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait un enjeu dans le monde actuel pour la psychanalyse en tant que telle, et donc pas seulement pour les lacaniens, mais pour la psychanalyse dans son ensemble. Et donc, il s'est intéressé à l'IPA et il a conversé avec les gens de l'IPA. Et il a lu aussi les textes de l'IPA. Et d'ailleurs, il a remarqué qu'il est un président de l'IPA, monsieur Wallerstein, qui a essayé de rechercher les bases minimales de l'orthodoxie. Et Miller remarque qu'il s'y est cassé les dents. Il est arrivé à la thèse de la disjonction de la théorie et de la pratique. Du côté de la pratique, on est dans la pragmatique, c'est-à-dire qu'on prend ce qui marche. Et n'importe quoi fait l'affaire. Lacan aussi bien. Et puis, on décrit ce qu'on fait dans une langue commune, plutôt factuelle. Et du côté de la théorie, alors, on propose une lecture, une élucubration, en sachant que de toute façon, ça loupe le réel de l'expérience, que ce ne seront que des métaphores, mais en faisant l'effort, disons, de bien en parler, avec un effort esthétisant. Donc, là où est situé le centre de l'orthodoxie psychanalytique, prévaut un relativisme pragmatique qui a comme conséquence qu'à l'IPA, on ne sait plus très bien ce qu'est la psychanalyse, ni faire la différence entre psychanalyse et psychothérapie. Je dirais que par rapport aux années 2000, aujourd'hui, il y a un pas supplémentaire qui a été fait, puisque, par exemple, le président de l'école belge de psychanalyse est un neuropsychiatre. Donc là, maintenant, il y a même des accointances avec la neurologie, psychanalyse et neurologie. Bon. Ce qui est important de souligner quand même, c'est que ce monsieur Wallerstein et l'IPA avec lui arrivent en quelque sorte à la même conclusion que Lacan à la fin de son enseignement, à savoir que l'expérience de la psychanalyse, la pratique, dépasse la théorie et que celle-ci n'est qu'une élucubration de savoir. Seulement, la différence, c'est que Lacan n'en tire pas les mêmes conséquences, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Même si en 1953, l'orthodoxie de l'IPA battait déjà de l'aile, Lacan en a fait son partenaire pour s'en détacher en l'affrontant et ainsi commencer son propre enseignement, justement, dit-il, au nom de son fameux retour à Freud. En fait, Lacan a considéré que les vrais hérétiques par rapport à la parole de Freud, c'était les égo-psychologistes, eux-mêmes. Ce sont eux qui ont dévoyé le texte freudien et lui, il revenait aux origines. C'est en quelque sorte les origines. C'est le moment où Lacan, dans son séminaire, avait le texte de Freud dans les mains. Hein. Donc il a relu le Cadora, l'homme au loup dans son séminaire, etc. Le Cachreber. Donc, en somme, pour Lacan, c'est les origines contre la tradition. Trop de tradition, trop de formalisme fait oublier l'origine, le moment fondateur. La tradition est oubli des origines, dit Merleau-Ponty. C'est ce que soutient exactement Lacan dans son texte de fondation de l'école freudienne de Paris en 64. Alors, 64, c'est pas rien, puisque c'est le moment de son excommunication de l'IPA, n'est-ce pas ? Donc en 64, quand il en appelle, dit-il, je le cite là, à un travail qui restaure le tranchant de la vérité freudienne, qui ramène la pratique analytique dans le devoir qui lui revient, qui, par une critique assidue, y dénonce les déviations et les compromissions qui amortissent son progrès. Voilà le programme. On voit bien que là, c'est l'IPA qui est visé par Lacan comme déviante par rapport à Freud lui-même. Alors, le tranchant de la vérité freudienne. Là, Lacan avance un terme important qui est celui de la vérité. En effet, vérité n'est pas savoir. Et c'est tout à fait en accord d'ailleurs avec la définition de l'inconscient. Parce que c'est quoi l'inconscient ? L'inconscient est de l'ordre de l'insu. C'est ce qui se manifeste par des effets, symptomatiques par exemple, ou de discours, bon, les lapsus, les actes manqués, mais dont on ignore la cause. Il n'y a pas de relation directe entre la cause et l'effet, la cause est perdue. C'est ça qui caractérise l'inconscient. Et le retour à Freud, au texte d'origine de l'appareil freudien, donc par exemple l'interprétation des rêves, le mot d'esprit dans ses rapports avec l'inconscient, montre que le refoulement ne peut se lever que par l'interprétation, que par le witz, donc le mot d'esprit, que par un effet de vérité. Si un symptôme peut être levé, c'est par l'interprétation qui est mot d'esprit et non par l'explication ou une déduction ou un raisonnement, toute forme de savoir du côté de la connaissance. C'est ce que dit Lacan à propos de l'interprétation de Freud à l'homme aura dans son texte « Fonction et champ de la parole et du langage » qu'on trouve dans les écrits. C'est un texte qui date, je le précise, de 1953, hein, le moment où il quitte la Société psychanalytique de Paris. Donc je le dis un peu de mémoire, mais c'est un truc qui m'avait marqué. La mère de l'homme aura lui présente une femme qu'il pourrait marier. Cela met le sujet, donc l'homme aura, dans l'embarras, car il est amoureux, lui, d'une dame qu'il appelle la dame de ses pensées. Ce conflit est à l'origine des troubles névrotiques du moment de l'homme aura, au moment où il rencontre Freud. Et Freud interprète cela, comme donc ces troubles névrotiques, comme l'effet de l'interdiction du père mort contre la liaison avec la dame des pensées. Hein, donc ça veut dire que dans la réalité, c'est la mère qui présente une femme à l'homme aura, qui crée le conflit puisque lui est amoureux d'une autre femme. Et Freud, en fonction de la structure de l'Œdipe, il interprète ça à l'homme aura en disant « c'est votre père qui est mort, mais qui vous l'interdit quand même bon. ». C'est tout à fait inexact, hein, du point de vue de l'exactitude des faits, on va dire. Mais en somme, c'est tout à fait vrai, en fonction de la structure du complexe d'Œdipe. Et d'ailleurs, la preuve en est que cela lève pour l'homme aura le lien mortifère qui noue le sujet d'une part à son père mort et d'autre part à la dame idolâtrée. Donc, c'est-à-dire que, à partir de cette interprétation, il y a un mouvement d'ouverture dans la cure de l'homme aura. Cela implique qu'une interprétation peut viser juste et produire un effet de vérité, mais qu'elle n'est pas pour autant fondée dans le savoir. Ici aussi, nous constatons que la pratique dépasse la théorie et que le savoir ne couvre pas toute l'expérience. Cette disjonction du savoir et de la vérité, quelles conséquences va-t-elle avoir sur la formation ? Car c'est bien donc pour ça que nous sommes ici rassemblés ce soir. Ce qui nous guide, donc, c'est l'indication de Freud de mettre de côté le savoir issu de la théorie psychanalytique, ou même, j'y reviendrai un peu plus tard, mettre de côté le savoir-faire acquis de l'expérience pour pouvoir rester sensible à ce qui peut surgir de la surprise de l'inconscient afin d'obtenir un effet de vérité. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous utilisons, dans le champ freudien, le terme passé dans les mœurs d'enseignement de Lacan et pas de théorie de Lacan. Lacan lui-même parle de « mon enseignement ». Il y a quelque chose chez Lacan qui ne s'est jamais transformé en système, en théorie figée. C'est plutôt le contraire. Son enseignement est toujours en mouvement. On croit avoir saisi petit a dans le stade du miroir, mais petit a est autre chose quand il devient un objet. Le grand autre est d'abord le lieu de la parole pleine, avant de devenir le trésor des signifiants, etc. Son enseignement lui-même, d'ailleurs, fourmille de mots d'esprit et d'équivoques, qui sont autant d'effets de vérité. De ce point de vue, à la fin de son enseignement, il y a un mouvement de Lacan qui laisse comme message quelque chose comme jeter son enseignement. Car évidemment, Lacan n'a pas été avare en construction théorique, on le sait bien, en construction épistémique très cohérente, qui ont d'ailleurs eu un certain effet de fascination sur ses élèves. Donc il a eu une activité théorisante très importante. Et il dit il faut jeter tout ça au profit de la vérité de l'expérience, au profit du vrai qui émerge dans l'expérience. L'essentiel de l'analyse, là je cite Jacques-Alain Miller, est au niveau du discernement, du jugement dans le moment, dans une conjoncture dont les facteurs se rassemblent toujours d'une façon inédite et imprévue. Et donc, dans la formation du psychanalyste, il s'agit de mettre le sujet en rapport avec ce qui ne s'enseigne pas. Il ne s'agit pas, ajoute Miller, de lui enseigner ce qui ne s'enseigne pas, mais de le mettre en rapport, spécialement dans l'expérience analytique, donc dans la propre expérience de la cure du psychanalyste, avec ce qui ne s'enseigne pas. La formation culmine ici avec la présence d'esprit, l'esprit d'à-propos, ou le tact d'à-propos, ou encore la transmission d'un style. Ce qui compte chez l'analyste, c'est une espèce d'état de vacuité, de disponibilité à l'inattendu. C'est ainsi qu'on peut saisir cette phrase de Lacan qui a surpris « Il n'y a pas de formation analytique, il n'y a que des formations de l'inconscient ». C'est là que Jacques-Alain Miller situe un usage, qu'il dit, socratique de l'ignorance chez Lacan. On l'a bien compris, la passion de l'ignorance chez Lacan n'est pas un ne rien vouloir savoir. C'est plutôt un usage méthodique, si j'ose m'exprimer ainsi, et conforme à la structure de l'inconscient. C'est une ignorance mise au travail, qui peut prendre un accent ironique, comme chez Socrate, et Lacan ne s'en est pas privé. Notamment dans sa position polémique à l'égard des savants, des doctes, des orthodoxes. La formation va donc au-delà de la transmission d'un savoir, elle va même contre tout savoir préalable. Ce qui est premier, c'est le vrai, c'est ce qui surgit. Et après, bien sûr, on peut élucubrer, construire un savoir sur ce qui a émergé dans la surprise de l'effet de vérité, et Lacan ne s'en est pas privé, je l'ai déjà signalé. Mais, ajoute-t-il, même si un savoir, donc je cite Lacan, même si un savoir résume les données de l'expérience analytique, quelle que soit la dose de savoir ainsi transmise, elle n'a pour l'analyste aucune valeur formatrice. Enfin, c'est quand même fort, hein. La formation n'est pas du côté de l'acquisition d'un savoir. Alors, où l'analyste en formation va-t-il trouver à être mis en rapport avec ce qui ne s'enseigne pas, avec la présence d'esprit, avec l'esprit d'à-propos, si ce n'est dans sa propre cure? De cette passion d'ignorance mise au travail des formations de l'inconscient, se déduit que la seule formation qui vaille est la cure propre, et ce qu'elle produit comme effet de vérité chez le sujet, comme effet sujet, comme mutation subjective. En fait, je me suis rendu compte, après avoir fait ce trajet-là, que j'en arrive ici, en quelque sorte, au point de départ d'où était parti Philippe Elbeau la dernière fois. Si, dans l'orthodoxie de l'IPA, un analyste est produit par un analyste, chez Lacan, un analyste est produit par une analyse. Je pense, j'espère, avoir pu cerner un peu en quoi s'est fondé en raison chez Lacan, à partir justement de cette passion de l'ignorance. Et la passe, donc Philippe Elbeau en avait parlé la dernière fois, enfin il l'avait évoqué. Donc la passe, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois ou qui ne savent pas ce que c'est donc cette épreuve par laquelle passe un analysant qui estime être arrivé au bout de son analyse. Épreuve par laquelle il témoigne en quoi son analyse est finie et ça produit un analyste. Eh bien, la passe, c'est l'appareil de transmission qui a été mis au point par Lacan, qui permet de vérifier cette mutation subjective à partir des effets de vérité. Bon, je ne vais pas en dire plus sur la passe parce que je pense que dans les exposés qui viennent, dans les mois qui viennent, là, vous aurez l'occasion d'en entendre parler plus largement, puisque des gens qui vont venir parler ici ont été à eux, c'est-à-dire qu'on fait la passe. Seulement, donc, je voudrais, pour terminer ce chapitre, ajouter que de ce point de vue, s'il n'y a pas formation de l'analyste, en tant qu'on apprendrait à devenir analyste, il peut y avoir des effets de formation, comme il y a des effets de vérité. Des moments qui peuvent se produire ou pas, dans la cure bien sûr, mais aussi dans d'autres lieux, comme dans le contrôle de la pratique, mais j'y reviendrai là tout à l'heure, ou dans un cartel. Donc le cartel, pour ceux qui ne savent pas non plus, c'est cet instrument mis au point par Lacan où, disons, quatre personnes se mettent ensemble et choisissent une cinquième personne pour lire les textes et produire un savoir nouveau. Hein. Et donc dans le cartel, donc quand on se confronte au déchiffrement d'un texte, il peut y avoir des effets formation. Quelque chose dans la lecture, dans la confrontation de la lecture les uns avec les autres peut produire une surprise. Tiens, j'avais vraiment pas compris ce truc comme ça, c'est nouveau pour moi. Ou également dans une activité d'enseignement. Ces effets de formation, donc, d'ailleurs, je le note, effet de formation, c'est le titre du texte de Jacques-Alain Miller auquel se référait Philippe Elbois la dernière fois. Hein, et c'est un texte d'ailleurs qui date de la même époque que ceux qui sont repris dans le numéro de la cause freudienne qui m'a occupé. Donc ces effets de formation, qui sont des effets de surprise, peuvent éclairer un point de la pratique de l'analyste, par exemple décaler l'impasse dans laquelle il peut être pris quand il analyse à partir de son fantasme. Ces effets de formation, qui ne peuvent être dits qu'au pluriel en fait, car ils tiennent chaque fois une singularité, peuvent participer à la modification de la position de l'analyste, à la mutation subjective. Et donc, s'orienter de la passion de l'ignorance, c'est s'orienter, en quelque sorte, à partir du trou dans le savoir. De ce côté-là, l'analyste, à l'égard de l'inconscient, même s'il s'agit de l'inconscient de celui qui vient lui parler, est toujours en position d'analysant. Mettre le savoir de côté pour être disponible à la surprise, c'est rester du côté analysant, du côté du sujet. Et je disais que l'effet de formation peut se produire aussi dans une activité d'enseignement. Eh bien, c'est la position de Lacan à l'égard de son propre enseignement. Il disait que quand il était en train d'enseigner à son séminaire, il était en position d'analysant. Il mettait sa passion d'ignorance au travail. Tout à l'heure, j'ai relevé que Lacan s'était opposé à la tradition de l'orthodoxie en prônant un retour à Freud, un retour aux origines. Mais Jacques-Alain Miller fait remarquer quelque chose qui, chez Lacan, va au-delà du simple retour aux origines. Peut-être de façon moins évidente en 53 qu'en 64. 64, donc, c'est le moment de l'excommunication. Donc, c'est-à-dire que Lacan est viré de l'IPA. C'est le moment de la fondation de l'école freudienne de Paris. Et c'est le moment du séminaire 11, que nous avons étudié ici à Mons, je pense, ou à pas, qui porte donc sur ce qu'il a appelé les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Il s'agit bien donc de retour à Freud, aux concepts fondamentaux freudiens. Mais ce séminaire est aussi le moment où Lacan fait un pas de plus. C'est le moment où Lacan s'affranchit de Freud, en quelque sorte. C'est le moment où Lacan fait entendre que Freud lui-même n'y est pas pour rien dans le fatras que devient la psychanalyse dans l'IPA, n'y est pas pour rien dans le fait que l'orthodoxie de Freud... Pardon. Et donc, c'est le moment où Lacan fait entendre également que l'orthodoxie que Freud a voulu, avec son caractère religieux, n'est pas sans lien avec l'Œdipe, et même est strictement articulé à l'Œdipe. Et donc, Lacan indique à ce moment-là qu'il va, lui, au-delà de l'Œdipe, qu'il va au-delà de Freud, qu'il va, en fait, au-delà du père, du du père de la psychanalyse, et qu'il va au-delà du nom du père, qui est sa propre construction à lui Lacan sur la question sur l'Œdipe, et qu'il rentre décidément dans notre époque, qui voit, elle, donc, s'effondrer les traditions et l'ordre paternel. Ce pas de Lacan, le ressort de ce pas de Lacan, se trouve tout aussi bien, et tout aussi bien lié au dépassement de la théorie par la pratique. En effet, l'Œdipe ne peut pas répondre à ce qui surgit au-delà du principe de plaisir. Le symptôme n'est pas seulement une métaphore, comme l'est le nom du père. Il contient également une satisfaction qui contre le principe de plaisir et qui n'est pas résorbable par l'Œdipe, qui ne peut pas être négativé par le symbolique. C'est le moment où Lacan introduit l'objet A et la question de la jouissance. Mais qu'est-ce que c'est que l'objet A ? Lacan y a passé son séminaire, enfin des années de séminaire à dire, à essayer de saisir c'est quoi l'objet A ? Disons en ramassé, que c'est ce qui est de l'ordre de la jouissance, qui ne peut pas être domestiqué, maîtrisé, qui est d'une autre nature que le langage, qui insiste dans les symptômes et à laquelle la théorie de l'Œdipe ne peut pas répondre. En somme, Freud lui-même a été confronté à ça, à l'inanalysable. C'est le réel. En somme, c'est ça. Le nom de ça, c'est le réel qui se rencontre dans l'expérience analytique. En somme, l'Œdipe, c'est l'orthodoxie proprement freudienne et Lacan s'en affranchit à ce moment-là. C'est le moment où Lacan cesse aussi d'être polémique. Donc, c'est-à-dire que toutes les satires contre l'égopsychologie, l'IPA et tout ça, ça s'arrête au moment du séminaire 11. Hein. Car il rend compte, à partir de ce moment-là, que le trou dans le savoir n'est pas un vide, mais que ce trou est occupé par quelque chose qui est précisément le réel. Si le trou dans le savoir était un vide, on pourrait le combler avec du savoir. Mais justement, c'est un point qui échappe au savoir, qui échappe à la logique du signifiant. On pourrait dire d'ailleurs que le fameux ombilique du rêve de Freud touche à ce point-là aussi, comme le point que l'interprétation ne peut atteindre. C'est là que Lacan est allé au-delà, car ce réel, qui est singulier à chacun, qui ne se partage avec personne, qui reste opaque au sujet lui-même, Lacan a voulu en tenir compte. Et c'est autour de ce point qu'il s'est mis à centrer la question de l'interprétation. Car c'est ce réel qui donne lieu au refoulement et à la mise en place de la défense. Donc, c'est-à-dire c'est ce réel qui est au principe même de l'inconscient. L'au-delà de l'Œdipe, c'est le moment où Lacan est passé de la polémique à l'interprétation. Il est passé du « un » qui rassemble ou qui divise. Il y a les orthodoxes, il y a les hétérodoxes, il y a les hippéistes, il y a les anafreudiens, les cléniens, les lacaniens. Il est passé donc du 1 qui rassemble ou qui divise au 1 de la série, à la série des 1 tout seul. Face au réel de l'expérience, il considère les analystes au 1 par 1. Et c'est à cet endroit, à l'endroit du réel, que vraiment chacun est appelé à réinventer la psychanalyse dans chaque cas. Donc c'est au regard du réel que la parole de Freud finalement prend sa vraie signification. Pour chaque cas, il faut réinventer la psychanalyse. C'est ce qui a amené Lacan à dire, d'ailleurs, que l'analyste ne s'autorise que de lui-même. Face au réel de la jouissance, il n'y a pas de savoir-faire, il n'y a que des savoir-y-faire, chaque fois singulier. Alors j'en viens maintenant, enfin je peux maintenant en venir à ce paradoxe qui m'a tenu en haleine pendant mes lectures. Face à cette passion de l'ignorance mise au travail et que j'espère avoir pu vous faire sentir, il y a l'exigence de savoir exorbitante de Lacan. Comment situer cela ? Comment situer ce paradoxe ? Eh bien, justement, il peut se saisir ce paradoxe à partir de la question du réel. Le réel est de l'ordre de l'indicible. Le réel est sans loi. C'est-à-dire qu'il échappe à la relation de causalité qui fait qu'à cette place-là, il y a un trou dans le savoir et que tout savoir est en fait une élucubration. On l'a vu, cela pousse, notamment dans l'IPA, à se contenter d'une certaine façon de belles métaphores pour caractériser leur construction théorique. Tout cela est dû au fait, on l'a vu, que l'expérience déborde toujours la théorie. Et Lacan va même plus loin avec cette catégorie du réel. Il la disjoint du vrai. Il dit qu'on ne ressent pas cette disjonction entre le réel et la vérité. On ne ressent que la disjonction entre le pratique et théorie. Mais la disjonction entre le réel et la vérité, elle est plus fondamentale. Ce qui fait dire à Lacan qu'il n'y a pas de vérité sur le réel. C'est quand même un problème, cette phrase. Il n'y a pas de vérité sur le réel. Est-ce que cela veut dire qu'au regard du réel de la jouissance, les effets de vérité sont nuls et non avenus? Est-ce que ça remet en question toute la première partie là, que je vous ai présentée? Si c'est le cas, c'est grave. Si ni aucun savoir, ni aucun effet de vérité ne peuvent accrocher ce réel, cette jouissance qui pourtant s'éprouve, hein, c'est pour ça que les gens vont en analyse, alors il n'y a plus qu'à se taire. Et puis, comment peut-on considérer qu'on puisse toucher à ce réel qui échappe à toute prise à partir d'une pratique de parole? C'est en somme la psychanalyse elle-même qui est remise en question, ni plus ni moins. Et donc, comment sortir de cette impasse? C'était la question pour Lacan. Eh bien, que Miller extrait de l'enseignement de Lacan, c'est ceci. C'est que Lacan, depuis le début de son enseignement et jusqu'à la fin, a supposé que si le réel est sans loi, il n'est pas sans structure. Ah voilà, c'est le Lacan structuraliste que nous retrouvons. Au départ, c'était le structuralisme de la linguistique. Et il a déroulé de toutes les façons possibles cet aphorisme que l'inconscient est structuré comme un langage. Vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, inconscient structuré comme un langage. On trouve la question de la structure. Et puis, il est passé, dans un second temps de son enseignement, à la structure des discours pour pouvoir y loger, justement, essayer d'y loger l'objet A. Et à la fin de son enseignement, je vous cite simplement ces choses, je ne vais pas vous les expliquer, mais à la fin de son enseignement, Lacan est passé à la structure... C'est le nœud broméen qu'il a proposé, que Lacan a proposé comme structure fondamentale du sujet et partant de l'expérience psychanalytique. C'est-à-dire, ce sont autant de constructions de Lacan, de tentatives de Lacan pour essayer de saisir c'est quoi ce réel de la structure qui est dans le réel, donc la structure qui est inscrite dans le réel. Cela veut dire que s'il n'y a pas de vérité sur le réel, il y a bien du symbolique dans le réel. Alors peut-être que Philippe Elbois avait utilisé un schéma qui était intéressant la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il avait utilisé un cercle avec un cercle à l'intérieur. Et ce qu'il avait dit, si je me rappelle bien, c'est que les savoirs extraits de la cure analytique étaient extimes au savoir extérieur. D'accord ? C'était ça qu'il avait, un savoir d'un ordre différent, disons. Eh bien, peut-être qu'ici, on peut essayer d'utiliser ce schéma également pour essayer de saisir de ce dont il s'agit. C'est que donc, on peut dire que si ceci est le savoir, eh bien là, au trou, au centre, dans le trou, il y a le réel. C'est le trou dans le savoir. D'accord ? Eh bien, Lacan dit que là, il y a une structure. Donc, si on ne peut pas dire la vérité ou le savoir sur le réel, ça n'empêche pas qu'il y ait du symbolique, une structure dans le réel, et que c'est ça qu'il s'agit d'essayer d'attraper. Bon. Évidemment, ce qui rend la chose compliquée, c'est que c'est une supposition. C'est obligé. Car parce qu'on n'en sait rien, justement, du réel, puisqu'il échappe toujours, puisqu'il échappe au savoir. C'est en somme un savoir, cette structure dans le réel, ce symbolique dans le réel, c'est un savoir qui est supposé. C'est d'ailleurs le ressort de ce qu'on appelle, de ce que Lacan a appelé le transfert, c'est-à-dire le sujet supposé savoir. C'est le ressort du transfert. C'est pour ça que ça structure l'expérience analytique. C'est pas seulement des élucubrations comme ça. C'est ce savoir dans le réel qui est supposé et le ressort même du transfert dans la cure analytique. C'est que le sujet supposé savoir, suppose qu'il y a une structure dans le réel. Et dire que c'est un savoir supposé, c'est dire que c'est un savoir de semblant. Que d'une certaine façon, c'est un mensonge. Dire que c'est un mensonge, ça fait, ça relie les choses avec la question de la vérité. On va voir comment ça s'articule chez Lacan. Lacan, d'ailleurs, a parlé, à un moment donné, de méprise du sujet supposé savoir. Peut-être qu'on peut dire, bon, c'est le thème que moi j'ai trouvé pour expliquer ça ce soir, que le transfert, ou la cure analytique, c'est un artifice, un appareil pour tenter d'attraper quelque chose de ce symbolique dans le réel. Et ce que peut produire parfois ce symbolique dans l'imaginaire, alors là c'est une phrase compliquée, mais je vais essayer de... Ce que peut produire parfois ce symbolique dans l'imaginaire, donc qui est le travail de la cure, c'est un effet de type poétique, dit Lacan, un effet de vérité menteuse. Ah. Alors, bon, ici, c'est un passage un peu difficile, c'est... Je dis encore une phrase. Donc, je répète. Ce que peut produire parfois ce symbolique dans l'imaginaire, donc qui est le travail de la cure, donc c'est la parole analysante, c'est ce qu'on dit dans la cure analytique. C'est un effet de type poétique, dit Lacan, un effet de vérité menteuse. Il s'agit d'une vérité sur la jouissance, mais qui ment, puisqu'elle n'est pas équivalente au réel. Elle n'est pas le réel. Et on retrouve donc ici l'accent mis sur les effets de vérité dans l'analyse, mais entend cette fois qu'ils permettent à un sujet de modifier son rapport à la jouissance, de savoir y faire avec la jouissance. Bière propose un schéma. Je vais dessiner. C'est, dit que, en somme, ici donc, ce réel qui est en somme. Non, je vais le faire autrement. Le réel a une structure symbolique. Et donc il inverse le schéma. Il dit donc... Ah oui, il ne faut pas utiliser ça. Donc pour essayer d'attraper ce symbolique qui est dans le réel, la jouissance, eh bien, on peut le faire que à partir du symbolique dans l'imaginaire. Voilà. C'est important de situer des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que, en somme, je pense que je le dis plus tard dans mon texte, mais j'ai le symbolique dans l'imaginaire, c'est on parle, c'est le fait de parler, c'est le langage commun, c'est le fait de parler en analyse, on cause, d'accord ? C'est le langage, c'est la parole. Ben, c'est le seul instrument qu'on a en analyse pour essayer d'attraper le symbolique qui est dans le réel. Et c'est important que ce soit de même ordre. C'est-à-dire, c'est la condition pour laquelle, avec laquelle, c'est la seule condition à laquelle on peut essayer, à partir d'une pratique de la parole, essayer d'attraper quelque chose du réel. Bon. Je vais sans doute me répéter là. Bon, ce à quoi je veux en venir par ces détours, c'est que s'il y a une structure dans le réel, même supposé. Et même si on ne peut y accéder dans la cure que par la voie de la vérité menteuse, cela implique en effet qu'il y a un savoir dans le réel. Voilà. Donc c'est le grand retour du savoir. Donc si, dans un premier temps, on dit eh ben, le savoir, il faut le barrer pour avoir accès à la cure analytique, il n'y a que la vérité qui permet d'y avoir accès, eh bien, quand même là, avec la structure du symbolique dans le réel, on a le retour de la question du savoir. Supposé, mais d'un savoir quand même. Et là, dit Lacan, il faut mobiliser toutes les catégories du savoir pour tenter de rendre compte de cette structure. Cela justifie l'activité théorisante incessante de Lacan. pour tenter d'attraper ce savoir dans le réel, cette structure dans le réel. Cette activité théorisante de Lacan est également mue par la passion de l'ignorance, puisqu'elle est centrée sur un trou, sur quelque chose qui échappe toujours, qui est le réel. Cela explique pourquoi il n'a pas mis au point un seul modèle, mais plusieurs, pourquoi il est ouvert au nouveau savoir plutôt que rivé sur la tradition, pourquoi il dit que tout est à jeter, puisque élucubration, mais en même temps qu'il ne cède jamais sur son désir jusqu'au bout d'éclairer ce qu'il en est des coordonnées de cette structure. En tout cas, Lacan n'a pas une position cynique qui conclurait du fait que tout n'est qu'élucubration, mensonge, hein, qui conclurait que tout se vaut et rien ne vaut. Après tout, la position de l'IPA qui soutient qu'au niveau de la pratique, tout ce qui marche vaut, et qu'au niveau théorique, on construit des belles métaphores, cette position n'est pas loin d'être cynique. Ce n'est pas la position de Lacan. Pour lui, l'expérience analytique est conditionnée par la structure qui comporte des contraintes et des conséquences. Et donc, on ne fait pas n'importe quoi. Et il s'agit de se casser la tête, un peu comme j'ai fait pour aujourd'hui, je veux dire, de travailler beaucoup pour saisir ce qu'il en est de ce symbolique dans le réel, pour avoir une chance de pouvoir opérer sur lui. Parce que quand même, ça a une effectivité. Hein, donc la vérité menteuse, ce n'est pas seulement du blabla, c'est quand même, ça modifie le rapport du sujet à la jouissance. Donc ça a un effet sur le symptôme. Alors, à partir de cette exigence de savoir, quel retour sur la formation ? Bon, il est clair que le savoir en jeu est un savoir de construction. Et que si chaque analyste est appelé à réinventer la psychanalyse, c'est que ce savoir borde un trou qui est occupé par un réel. C'est ça la passion de l'ignorance. Une ignorance mise sans cesse au travail. Dans ce sens, la formation, dit Lacan, est infinie. La formation du psychanalyste est infinie. Il n'y a pas de savoir totalisant sur le réel. Il n'y a pas le un du savoir. Il n'y a que des savoirs ou des bouts de savoir mis en série. Une série de savoirs qui doivent être mis à l'épreuve. C'est le principe de la passe, j'y reviens. Si dans la procédure, le sujet qui dit avoir terminé son analyse rend compte du moment de vérité menteuse qui a surgi dans son analyse, et si ce moment est validé comme tel par le cartel de la passe, c'est-à-dire les personnes à qui il témoigne, alors celui qui est nommé AE, analyste de l'école, est invité à produire un savoir sur cette expérience. Donc, c'est-à-dire que celui qui est nommé AE, donc qui a passé l'épreuve de la passe, est invité pendant 3 ans à enseigner l'école sur son expérience, sur l'expérience de la psychanalyse. Donc il est invité à produire un savoir nouveau sur son expérience, sur ce qui a produit un analyste. Hein. Comment son analyse a produit un analyste. En somme, chaque AE renouvelle le savoir sur la structure. En fait, ce paradoxe montre qu'il y a une espèce de dialectique entre vérité et savoir. Et cette dialectique est très présente dans les débats qui ont eu lieu lors de ce congrès donc de l'AMP, l'Association mondiale de psychanalyse. Pour ceux qui ne le sauraient pas, donc l'AMP, l'Association mondiale de psychanalyse, ce n'est pas l'IPA. Hein. Donc l'Association mondiale de psychanalyse, c'est l'association mondiale qui rassemble les écoles lacaniennes de par le monde. Il y en a 4 en Europe, 3 ou 4 aussi en Amérique, notamment en Amérique latine. Ce qui les rassemble, c'est justement la question de la passe. Alors, les débats qui ont eu lieu lors de ce congrès de l'AMP sur les effets de formation en psychanalyse en 2002, cette dialectique entre vérité et savoir était très présente dans ces débats autour de la question du contrôle. Et donc, je voudrais, pour terminer, dire quelques mots là-dessus. Vous savez ce qu'est le contrôle ? C'est le fait d'aller voir un collègue psychanalyste pour parler de sa pratique à partir des cas que l'on reçoit. Le terme contrôle est resté, alors que Lacan lui-même aurait préféré celui de supervision qui existe, qui circule d'ailleurs, mais pas en ce qui concerne la pratique du contrôle de l'analyste. Ou même Lacan, plus tard, aurait préféré le terme de super-audition. Bon. Soit. Le contrôle de sa pratique est un outil indispensable pour la formation du psychanalyste. S'il n'y a pas de contrôle, bon, quand même, on risque de faire n'importe quoi, ou au minimum, on ne sait pas ce qu'on fait. Eh bien, dans les débats qui ont eu lieu au congrès de l'AMP, on a retrouvé cette dialectique entre vérité et savoir, qui s'est traduite par deux énoncés. D'une part, le contrôle de l'acte, et d'autre part, le contrôle du cas. Du côté du contrôle de l'acte, là, on est vraiment dans le cœur de la formation. Hein. Il s'agit d'être attentif à la dimension de la position de l'analyste dans sa pratique. Hein, donc, le contrôleur est attentif à la dimension de la position de l'analyste contrôlant dans sa pratique. Est-il assez dans la position zen pour pouvoir accueillir le nouveau, l'inédit qui peut surgir chez son analysant et qu'il pourra produire dans l'acte par l'interprétation comme effet de vérité? N'est-il pas encombré par son inhibition, ou par son fantasme, ou par la jouissance de son propre symptôme que pour pouvoir s'occuper de celui d'un autre? Des interventions du contrôleur peuvent avoir des effets sujets chez celui qui se fait contrôler, chez l'analyste contrôlant, des effets de vérité ou des effets de formation qui peuvent débloquer, par exemple, à l'occasion, une cure qui n'avance pas, déplacer le psychanalyste dans sa position, au niveau de la cure qu'il mène, ouvrir la voie du nouveau. C'est-à-dire que le contrôle de l'acte rend l'acte éventuellement possible, rend l'interprétation éventuellement possible. Cela veut dire que le contrôle n'est pas tout à fait indépendant de l'analyse. Mais pour autant, ce n'est pas dans le contrôle même que cela doit se traiter. Plutôt, c'est un renvoi à l'analyse de l'analyste. Hein. Ce lien analyste-analysant, c'est-à-dire donc le fait que l'analyste est en même temps analysant, peut expliquer par exemple le fait que des personnes demandent un contrôle à leur analyste. Ou, ce qui se rencontre assez souvent, ou qu'une demande de contrôle se transforme en demande d'analyse. Hein. Ça, c'est du côté contrôle de l'acte. C'est-à-dire du contrôle du côté des effets sujets. De l'autre côté, il a le contrôle du cas. Donc, c'est-à-dire qu'on mettrait... on mettrait le contrôle de l'acte du côté de... ici, hein, des effets de vérité. Par contre, on mettrait du côté l'exigence de savoir... le contrôle du côté, le contrôle du cas. De ce côté-là, c'est le côté du savoir sur la structure qui est en jeu, pas l'effet sujet du côté de l'analyste. Il s'agit là, à proprement parler, de l'élaboration du cas, de sa construction, de sa logique, des éléments familiaux, du symptôme, du fantasme, de l'objet A, etc. On travaille à deux, contrôlant et contrôlé, donc, pardon, contrôlant et contrôleur, sur le cas. C'est un travail épistémique de savoir. Et ce n'est pas pour vérifier ce qu'on connaît déjà, ça, c'est justement pour pouvoir appréhender du nouveau la singularité du réel en jeu dans ce cas-là. C'est là qu'il s'agit de réinventer la psychanalyse à chaque fois. Et s'il y a des impasses, elles tiennent alors au réel enjeu et pas forcément à la position subjective de l'analyste. Tenir compte de ce réel qui troue le savoir est indispensable pour que l'analyste puisse tenir sa position. Le rapport au savoir constitué est un problème pour la psychanalyse. C'est le cas à l'IPA. Ou par exemple, il y a une procédure de vérification de l'analyste dans sa pratique devant un jury. Donc, c'est pas la passe, ça. La passe, c'est la vérification de comment l'analyse de quelqu'un
a produit un analyste. Ici, la procédure dans l'IPA, c'est vérifier que l'analyste, dans sa pratique, est-ce qu'il y est ou est-ce qu'il n'y est pas. Donc ça veut dire qu'on vient, on fait venir un analyste pour présenter un cas devant un jury. Et une fois qu'il a bien présenté son cas, on lui dit maintenant, ça y est, vous êtes psychanalyste. En somme, bon, Philippe Elbois était un peu prudent la dernière fois en évoquant la question de l'université, puisqu'on est dans les murs de l'université. Mais quand même, ça, c'est le modèle universitaire. Il y a un savoir à acquérir, et on met des épreuves en place pour vérifier que c'est bien digéré. Et alors, il y a reconnaissance par le diplôme. C'est en somme aussi le danger de la volonté de légiférer sur les pratiques psy. Confier la formation de la psychothérapie, même dite psychanalytique, à l'université, est en somme, au regard du réel, un non-sens, en tant que dire à quelqu'un « ça y est, vous êtes psychothérapeute, analytique, vous êtes autorisé », ça suppose qu'on sache le savoir qu'il y a à savoir pour pouvoir autoriser. D'accord ? Ça bouche le trou dans le savoir qui est indispensable pour pouvoir tenir une position authentique devant le réel enjeu dans le symptôme. De ce point de vue-là, j'ai bientôt terminé. Le danger d'un contrôle, il y a aussi un danger dans le contrôle si ce contrôle vient chercher un savoir-faire par rapport à ce réel. Le savoir-faire, en somme, c'est ce qui s'acquiert par l'expérience. C'est le savoir pratique qui s'accumule à force d'exercice. Et en effet, Lacan le souligne, l'analyste expérimenté n'est pas forcément le plus à même d'accueillir la nouveauté. Et la fonction, donc le rôle du contrôleur, est de réinjecter du côté de l'analyste sa passion de l'ignorance. Et pour la mettre au travail, évidemment. On voit bien donc que les deux axes de la vérité et du savoir sont noués et sont en quelque sorte indissociables dans la formation de l'analyste. En tout cas, ils sont dans un rapport dialectique. Si l'attitude zen, comme dit Miller, débarrassée de tout savoir, de tout préjugé, est indispensable pour accueillir la surprise, ce n'est pas suffisant. La vérité peut survenir, bien sûr, mais seulement sur un fond de savoir, toujours troué. La vérité vient elle-même trouer le savoir. Donc le point de vérité que trouve celui qui dit « j'ai fini mon analyse » et qui en témoigne dans la passe, eh bien ça vient trouer le savoir. Ça vient faire surprise. Mais cette vérité qui vient trouver le savoir, ce n'est pas évidemment sans que le savoir soit présent, sinon comment le trouver ? Et donc, ça vient trouver le savoir pour être éventuellement remanié par la trouvaille. Il y a un terme, pour terminer, que Patrick Moribon, qui est un des intervenants dans ce débat-là, sur ces questions, a inventé donc pour l'occasion, pour tenter de nouer ces deux versants de l'analyste, donc de la vérité et du savoir. Il disait, l'analyste est un trouvailleur. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un travailleur acharné, qui en même temps reste ouvert à la trouvaille. Ben voilà.
Merci beaucoup, Guy. Alors, voilà, je vais peut-être m'arrêter sur un point ou l'autre, et puis surtout, ça vous permet un peu de réfléchir à vos questions, si vous en avez, ou d'ouvrir le débat. J'étais fort. Il y a une phrase qui d'ailleurs se trouve comme trame de fond dans ce que tu nous as proposé ce soir, lorsque tu dis de s'orienter à partir de la passion de l'ignorance, c'est s'orienter à partir de ce trou dans ce savoir dont tu viens de parler encore à l'instant. Et ça m'a fait penser, je me disais, c'est peut-être intéressant à partager avec vous à un livre que je suis en train de lire où se sont rassemblés non pas autour de la question de la formation des psychanalystes, mais bien, enfin, je trouve que le lien est intéressant autour de ce qui est opérant dans la cure, quatre psychanalystes venant d'écoles différentes. Et dans ce travail qu'ils ont fourni, il y a notamment Pierre Malengros, qui est donc un psychanalyste du champ freudien, et aussi Ginette Godefrin, qui est, je pense, plus du côté de l'IPA. Et c'est qu'au fond, voilà, en posant la question de ce qui est opérant dans la cure, Pierre Malengros faisait valoir dans sa position de psychanalyste, justement, qu'il ne s'agissait pas, autour d'un titre comme celui-là, d'offrir au lecteur une boîte à outils, des trucs formatés, des formules qui marchent. C'est évidemment, du point de vue de notre champ, pas du tout ça qui est en question. Et ce débat, parce que donc ils se sont réunis pendant 2 ans régulièrement, ces quatre psychanalystes, pour échanger autour de ces questions, avec donc de ce qui est opérant dans la cure, c'est le titre de l'ouvrage. Donc ce débat a l'avantage de donner à chacun des analystes la possibilité de développer la question, mais aussi de porter un regard critique sur la façon dont les collègues d'autres champs travaillent. Et pour revenir à ce dont tu nous as beaucoup parlé aujourd'hui, c'est-à-dire de maintenir cette position en tant qu'analyste d'un trou dans le savoir. Il soulignait dans le travail de Ginette Godefrin, donc qui est plutôt orientée IPA, exactement ce que tu nous as dit ce soir, à savoir que tout fait farine au moulin. Il y a une question pour telle patiente de tel ordre, eh bien, elle va essayer de trouver une théorie ou un texte ou quelque chose qui parle de ce type de problème-là. Et donc, elle est extrêmement éclectique, effectivement. Et Pierre Malengros, avec gentillesse, mais dans la réponse qu'il lui faisait, soulignait que ça dénote quelque chose de la position du psychanalyste, de souhaiter pouvoir avoir réponse à tout, finalement. Voilà. Et je trouve que ça fait vraiment écho à ce que tu nous as amené ce soir. Et donc, si vous avez envie de découvrir ce débat, c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi Jean-Pierre Lebrun qui prend la parole dans ce travail.
C'est une position qui... où le psychanalyste incarne le savoir. Et donc, c'est le sujet, le savoir supposé, c'est important qu'il soit supposé. C'est-à-dire que ça maintient ce trou dans le savoir. Donc, il y a quelque chose qui ne se sait pas et qui met justement l'analysant au travail de ce trou dans le savoir. Voilà. Et ça reste toujours supposé. Donc il ne faut pas l'incarner ou faire être le savoir d'une certaine façon. On loupe le travail de analysant si on incarne le savoir. Il faut le maintenir justement en tant que seulement il est supposé. Et d'ailleurs, il faut quand même dire que la position de Lacan, c'est une position éthique. C'est-à-dire qu'en effet, il dit dans le réel, on n'en sait strictement rien. On peut simplement supposer qu'il y a une structure, qu'il y a du symbolique dans le réel. Et qu'on peut que l'attraper par la vérité menteuse. Et donc, chacun est amené à dire quel est, par quel point, par quelle voie il est parvenu à attraper son réel. Parce que le réel, il est propre à chacun. C'est pas un réel qui vaut pour tous. Hein.
Je crois que j'ai retrouvé la parole. Voilà. Alors...
Enfin, moi, ce qui m'a surpris beaucoup, c'est cette question de la passion de l'ignorance. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc pour se former, pour que... D'ailleurs, il faut essayer de se déprendre du terme se former.
Donc plutôt, on parle d'effet de formation plutôt que de formation, mais que donc ce qui permet les effets de formation, c'est la passion de l'ignorance. C'est quand même surprenant, mais bon, quand on essaye d'aller voir un peu plus loin, c'est-à-dire c'est de véritablement mettre cette passion de l'ignorance au travail. Hein, donc c'est-à-dire de chercher, de construire, d'aller lire, de et ça permet effectivement de construire le bord de ce trou.
Alors j'avais aussi envie de revenir sur quelque chose qui concerne les écoles. Il me semble que tu as évoqué la différence, mais peut-être si tu pouvais essayer de la ressouligner. Dans toute ta première partie où tu nous as présenté au fond la, historiquement comment s'est développé le courant de l'IPA et comment tout ça a évolué, mais en lien avec la formation, tu as souligné au fond que c'était une école qui avait une visée universelle. C'est le terme que tu as utilisé, et tu nous as parlé dans le deuxième temps de ton propos de l'association, et je souligne le mot mondial, de psychanalyse. Alors, moi j'ai une petite idée de pourquoi ça ne vise pas un universalisme dans le chef de l'association mondiale de psychanalyse, donc qui est du côté du champ freudien. Et qui tient, en tout cas c'est ce que j'ai entendu dans ton propos ce soir, au fait que ce qui fait que quelqu'un s'autorise à un moment à dire qu'il est psychanalyste se joue au un par un au niveau de la passe. Et donc que c'est jamais une répétition, mais c'est chacun un par un, et ça fait écho au titre de ce cycle, la formation des psychanalystes. Oui. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai entendu, mais si tu pouvais...
Oui, en fait, la visée universelle de l'IPA, c'est bon, d'abord, c'est le nombre fait argument. Hein, il y a d'abord ça. Je ne sais plus combien j'avais une fois regardé ça, le nombre d'analystes inscrits sur les listes de l'IPA, c'est gigantesque. Bon, et donc ça fait argument, le nombre. C'est évidemment un faux argument. Mais effectivement, c'est une... Enfin, là, j'ai essayé de le dire, je ne peux plus le déployer maintenant, mais c'est un rassemblement du côté de l'identification. Nous sommes tous, au même titre, analystes de l'IPA. Bon. Et par rapport à ça, alors faut quand même savoir que j'avais évoqué la dernière fois la différence entre l'extimité là, de ce que Philippe Elbois avait présenté et l'extraterritorialité. L'extraterritorialité, c'est quoi? C'est de dire la psychanalyse, elle n'est pas concernée par le monde autour d'elle. Voilà. Donc il peut se passer tout ce qu'on veut, la psychanalyse reste la psychanalyse. Bon. Et on n'est pas touché par les mouvements du monde. Eh bien, Lacan, et je pense que Miller, d'une certaine façon, parce que c'est Lacan a fondé, juste avant de décéder, l'école de la cause freudienne, mais c'est Miller qui a eu cette action de fondation des écoles en Italie, en Espagne, en Europe, en Amérique latine aussi, et finalement de l'association mondiale. Pourquoi? C'est pas pour faire nombre, il n'y a pas tellement de psychanalystes. Enfin, je veux dire, par rapport au nombre d'analystes de l'IPA, c'est très peu. Hein, en comparaison. Mais c'est parce que justement, ils considèrent qu'il n'y a pas d'extraterritorialité de la psychanalyse, que la psychanalyse est concernée par ce qui se passe dans le monde, et que les bouleversements dans le monde concernent la psychanalyse. Et que donc, de mettre en place des institutions qui se basent, qui ont comme centre, effectivement, l'expérience de la passe, donc l'expérience de la psychanalyse, et pas des psychanalystes, hein, c'était essentiel pour préserver ce socle-là d'une certaine façon pour le mettre au travail, hein. Et donc c'est vrai, c'est pas collectivisant, c'est au un par un. Bon, ça c'est ce que aussi bien en institution on essaye de faire valoir quand on travaille en institution, quand on dit c'est le cas par cas,
vraiment, ou cette parole d'Alexandre Stevens qui a fondé le Courtil, qui disait mais à chaque cas son institution. Hein? Donc c'est l'envers de tous dans l'institution. C'est à chaque cas son institution, à chaque analyse, à chaque expérience son savoir singulier. Voilà.
Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, mais si vous me faites signe, j'apporte le micro.
Oui, en fait, j'ai beaucoup de mal avec cette idée qu'il y a du symbolique dans le réel. C'est pas la même chose de dire que, avec, si on part de du symbolique dans l'imaginaire pour atteindre le symbolique dans le réel. Enfin, moi, je voyais plutôt les choses comme pour faire un bord autour du trou.
Oui.
Et donc, j'arrive pas à appréhender qu'il y ait du symbolique dans le réel.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que Lacan dit que c'est supposé. Hein. C'est-à-dire qu'il faut supposer que le réel a une structure quand même. Bon, alors c'est aussi la supposition de la science. Les scientifiques supposent qu'il y a une structure dans le réel. Et c'est ce qui fait qu'ils mettent au point des modèles mathématiques, par exemple, pour essayer d'appréhender ce qu'il y a au niveau de la physique, on sait pas la physique quantique. Enfin, ça se calcule pas à partir de formules mathématiques. Donc ça veut dire que on rend compte du réel à partir de formules symboliques. Donc ça veut dire que dans le réel, il y a une structure. C'est pas n'importe quoi. Parce que si on dit le réel, bien sûr, le réel, c'est hors symbolique imaginaire, on va dire. D'accord? C'est hors loi. Il y a pas de, dans le réel, il y a pas de lien linéaire entre la cause et l'effet. Ok? Il y a quelque chose de la cause qui est perdu, comme dit Lacan. Bon. Ce qui fait que, effectivement, on peut avoir des symptômes, mais on comprend pas ce qui nous arrive. Comment ça se fait? Je veux dire, là, il y a une énigme. Bon. Mais il faut essayer, effectivement, il faut supposer qu'il y a quelque chose qui détermine ce symptôme, d'une certaine façon, qu'il y a un symbolique dans ce réel-là, pour pas faire n'importe quoi, ou pour pas simplement se taire. Je veux dire, donc il faut mettre le savoir au travail pour essayer d'appréhender c'est quoi cette structure, mais qui n'est que supposée, puisqu'on ne peut pas l'attraper, elle échappe toujours, c'est la définition du réel. Et donc effectivement, il y a... mais c'est en quelque sorte une supposition obligatoire. Sinon, on s'arrête. Il n'y a plus rien à dire. Et le... Par exemple, ce que dit Pierre, c'est que le travail d'élaboration dans le contrôle, par exemple, par rapport au cas, eh bien, c'est un savoir qui n'est pas le savoir de la structure du réel, mais c'est un savoir qui est au bord, voilà, qui tourne autour du bord. Voilà. C'est pas, on peut dire que je devrais pas prendre ce schéma-là, hein, je devrais prendre celui-là. Ah, c'est pas grave. Mais on pourrait dire que, par exemple, les mathématiques, la linguistique, ça se situe dans ce champ-là. Mais l'élaboration du cas dans le contrôle, par exemple, quand on essaie d'attraper la singularité du sujet, c'est une élaboration de savoir qui est sur les bords de cette structure dans le réel, mais qui ne peut pas jamais l'équivaloir, d'une certaine façon. C'est ce qui fait que, quand on rencontre d'un cas, il y a toujours une part qui échappe. Hein, on n'attrape pas le cas. Je veux dire, des petits bouts, on fait des bouts de construction de savoir, effectivement. Mais à l'occasion, c'est ce qui peut permettre. Ça, c'est l'autre versant, alors, c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, celui-là non plus. C'est le versant où quelque chose peut surgir de l'acte de l'analyse, c'est-à-dire une interprétation qui remanie les choses chez le sujet. Voilà. C'est pas l'un sans l'autre. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'encombrer du savoir quand le... Alors il y a une autre... une autre, disons, un autre axe pour prendre ça. Par exemple, Lacan dit que dans l'analyste, dans sa pratique, il est à l'égard de l'analysant en position de semblant d'objet. D'accord ? Bon. Mais s'il est semblant d'objet, il n'est pas sujet à ce moment-là, dans son acte. Il n'est pas sujet analysant, sujet divisé, qui est en train d'interroger le sujet supposé savoir. Non, il pose son acte. Hein ? Il dit paf. Voilà. Et là, il n'est pas divisé. Par contre, quand il va voir son contrôleur et qu'il se demande, tiens, voilà, j'ai dit ça, il y a eu ça comme effet, enfin bon, voilà, et comment et le fantasme de ce type a bougé, comment et son symptôme, nom d'une pipe, je ne parviens pas à le faire bouger. Là, il est plutôt en position plutôt analysante de nouveau, hein, plutôt de sujet. Voilà. Et donc là, il met le travail, le savoir au travail pour essayer d'attraper quelque chose du réel du cas.
Oui, je voulais vous demander une question justement par rapport à l'abstraction, au fait de faire abstraction du savoir lorsqu'il y a une analyse. En fait, voilà, je me demandais si, lors d'une analyse, la faculté à savoir faire abstraction du savoir qui a été acquis lors des formations, j'imagine qu'elle s'enseigne, mais je voulais savoir si elle ne serait pas aussi innée, ou du moins, est-ce qu'elle le serait à un certain degré, ou alors elle ne l'est pas du tout, je veux dire, elle s'enseigne à 100%, ou... Enfin, je veux dire, ça c'est plus une question où je demande votre avis, est-ce que, dans votre expérience, vous pensez qu'elle a un caractère inné ou pas du tout, quoi. Voilà.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, pour rester ouvert à la surprise, à ce qui est inouï, à ce qu'on n'a jamais entendu, à ce qui est radicalement nouveau, et que l'analyste Alaf a le devoir d'essayer d'attraper chez le sujet, hein, qui fait sa singularité, il faut mettre tout le savoir, tout son savoir-faire, toute son expérience sur le côté. C'est ça, ça le but. Et justement, j'ai insisté là-dessus, c'est que Miller dit « ça ne s'enseigne pas ». Ça ne s'enseigne pas. Mais, d'une certaine façon, ça s'attrape dans sa propre cure. Donc, c'est-à-dire, c'est au moment où il y a des effets de sujet pour nous-mêmes, pour soi-même, dans sa propre cure, qu'on a, on rentre en rapport avec ce non-savoir, avec cette chose-là, qu'on commence à être sensibilisé à cette question-là, à ce qui peut surgir de l'équivoque, du trouvailleur, enfin, ça ne s'apprend pas, d'une certaine façon.
C'est venir plutôt naturellement lors des cures, comme enfin lors des cures, que ça c'est venir naturellement à ce moment-là, et si jamais ça ne vient pas là, voilà quoi.
Oui, ça c'est le lieu où ça peut surgir, ou sinon ça surgit pas. C'est-à-dire que bah, évidemment des lapsus, tout le monde en fait tous les jours, même des mots d'esprit, mais en tant que ça c'est coordonné à sa propre jouissance ou à son propre symptôme, ça c'est, il y a que dans la cure analytique que ça peut s'articuler d'une certaine façon.
Bon, eh bien. Bon. Je pense qu'on peut en rester là pour ce soir. On se retrouvera au mois de décembre où nous accueillerons comme conférencier Dominique Holwood, voilà, qui est directeur du Courtil. Merci.